Note sur l'épître de Jacques, recueillie dans des réunions d'études. Article du Messager évangélique de 1910. Chapitre 1er. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Or, que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son faire. Si quelqu'un pense être religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, et celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde.
Cette épître est une des épîtres de la fin. Elle est adressée aux 12 tribus qui étaient dans la dispersion. Le peuple y est reconnu dans son ensemble. L'apôtre Paul fait de même en Actes 26, verset 7.
Laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche, nuit et jour, espèrent parvenir.
L'Évangile avait pénétré parmi eux, mais ceux qui l'avaient reçu, tout en ayant la foi au Seigneur Jésus, étaient encore liés au système judaïque et marchaient avec la synagogue. Un certain nombre d'entre eux professaient avoir la foi, mais sans avoir la vie. C'est ce que l'on trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux. Jacques s'adresse à cet ensemble, tandis que Pierre écrit à ceux de la dispersion qui avaient été régénérés. Vu ce mélange, Jacques ne nous présente pas la position du chrétien, tout en établissant, comme nul autre écrivain du Nouveau Testament, la plénitude de la liberté chrétienne aux versets 18 et 25. Il insiste sur la vie pratique chez ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont été engendrés par la parole de la vérité, verset 18, et tous ceux qui font profession de christianisme, aujourd'hui comme alors, se trouvent sous la même responsabilité. Actuellement, nous sommes tenus de traiter la chrétienté sur le pied de sa profession chrétienne, toute insuffisante qu'elle soit, afin de lui démontrer sa responsabilité et le jugement qui s'y attache. Verset 1er.
Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut.
L'auteur de l'Épître ne prend pas le titre d'apôtre. C'est ce Jacques que nous trouvons à la tête de l'assemblée à Jérusalem, comme représentant avec autorité le principe du judaïsme qui régnait encore dans cette assemblée. Acte 12, verset 17.
Et leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et il dit : Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. Et sortant, il s'en alla en un autre lieu.
Acte 15, verset 13.
Et après qu'ils se furent tus, Jacques répondit disant : Homme frère, écoutez-moi.
Acte 21, verset 18.
Et le jour suivant, Paul entra avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent.
Il semble certain, d'après Galates 1, verset 19, qu'il était le frère du Seigneur. Galates 1, verset 19.
Et je ne vis aucun autre des apôtres sinon Jacques, le frère du Seigneur.
Jacques, le frère de Jean, avait déjà été mis à mort par Hérode, Acte chapitre 12, et Jacques, apôtre, fils d'Alphée ou de Clopas, autrement dit Jacques le mineur, ne peut guère être identifié avec lui. Une note en bas de page, l'effort de la critique d'identifier Jacques, fils d'Alphée, avec Jacques, frère du Seigneur, n'aboutit à aucune conclusion certaine. Marie, mère du Seigneur, avait 4 fils, Jacques, Josse, Simon et Jude. Matthieu 13, verset 55.
Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques et Josse et Simon et Jude?
Marie, sa sœur, femme de Clopas, Alphée, Jean 19, verset 25, avait 2 fils, Jacques et Josse. Matthieu 27, verset 56, dont l'un est appelé Jacques le mineur, Marc 15, 40, l'autre Jude, Acte 1, verset 13, tous deux différenciés des frères de Jésus, au premier chapitre des Actes, verset 14. Jean 19, verset 25.
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Matthieu 27, 56.
Entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et de Josse, et la mère des fils de Zébédée.
Marc 15, verset 40.
Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques le mineur et de Josse, et Salomé.
Acte 1, verset 13.
Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean, et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, et Simon Zélote et Jude, frère de Jacques. tout ceci persévérait d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.
Fin de la note. Jacques se nomme esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est là son titre de gloire, et c'est d'une touchante beauté, si véritablement Jacques est le frère du Seigneur. Il le reconnaît comme son Seigneur, le Seigneur de gloire. Chapitre 2, verset 1.
Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire.
Celui qui l'a racheté, qui le possède entièrement, car l'esclave ne s'appartient plus. C'est un caractère du racheté sous lequel nous négligeons peut-être trop de nous considérer, car, achetés par le Seigneur et Maître, nous n'avons aucun droit de nous appartenir et de faire ce que bon nous semble. 1 Pierre 2, verset 1.
Rejetant donc toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et l'envie, toute médisance.
Versets 2 et 3.
Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Comme les chrétiens auxquels Pierre s'adresse, ceux-ci souffraient la persécution. Aussi Jacques les encourage en leur montrant qu'ils devaient estimer comme une parfaite joie d'être en butte à diverses tentations, vu les résultats qu'elles produisaient. Dans ce verset, comme au verset 12, la tentation vient du dehors et Dieu la permet pour éprouver la foi. Aucune tentation pareille n'a été épargnée au Seigneur. Au verset 13 à 15, nous trouvons la tentation intérieure, fruit de la convoitise, tentation qui ne peut venir de Dieu. L'épreuve a pour but de produire la patience. L'apôtre Paul parle de même en Romains 5, verset 3. Seulement ici, le résultat de l'épreuve ne va pas au-delà de la patience. Romains 5, verset 3.
Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience.
La patience, c'est d'avoir une volonté brisée. Or les épreuves produisent ce brisement. La vieille nature est toujours opposée à la volonté de Dieu, et, quand elle agit, elle nous empêche de marcher sur les traces de Christ, car il disait
« Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. »
Et s'attendait patiemment à l'Éternel. Psaume 40. Il faut que la patience ait son œuvre parfaite, c'est-à-dire que l'on endure tout en vue d'un but à atteindre. À l'origine, le mot « patience » signifie « souffrir ». C'est par la souffrance que nous sommes dépouillés du moi et des choses visibles pour que la foi puisse s'attacher à son objet. La vraie foi s'affermit dans l'épreuve parce qu'elle est de Dieu. Là où il n'y a pas de foi réelle, tout est finalement détruit lorsque l'épreuve survient, comme lorsque la semence tombe dans les lieux pierreux. La parole a été reçue pour la joie qu'elle produit, mais n'ayant rien opéré dans la conscience, ses effets ne sont que pour un temps. Au contraire, la joie, au lieu d'être passagère, s'accroît dans l'épreuve. Nous nous glorifions dans les tribulations, et cette joie dans l'âme est soutenue par la jouissance de l'amour de Dieu. Verset 4.
Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien.
L'Épître montre que la puissance de la vie nouvelle doit empêcher la volonté propre de se produire. Sans la vie de Dieu, la patience ne peut avoir son œuvre parfaite. Chez Saül, l'œuvre de la patience n'a pas été parfaite, il n'a pu attendre jusqu'au bout et a perdu le royaume. 1 Samuel 13. Une fois la patience produite, il faut encore persévérer afin d'être parfait et accompli, ne manquant de rien. Être parfait a trait au sujet dont il est question ici, c'est n'avoir point de volonté afin d'accomplir celle de Dieu. La perfection de Christ était l'absence absolue de propre volonté. Verset 5.
Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche, et il lui sera donné.
Si quelqu'un manque de sagesse, la ressource est en Dieu. La sagesse est le résultat de l'expérience. Tous ne la possèdent pas. Si quelqu'un en manque, il lui faut s'adresser à Dieu. Dieu la lui donnera libéralement, comme il donne à tous, sans lui reprocher son manque de sagesse ou toute autre chose. En sorte que tous peuvent agir sagement en la demandant à Dieu.
Qui est sage prendra garde à ces choses et comprendra les bontés de l'Éternel.
Psaume 107, verset 43. Mais il faut lui demander avec foi, sans douter. Nous avons besoin de sagesse pour savoir ce que nous devons faire et comment profiter de l'épreuve. Il ne nous faut pas premièrement chercher les moyens de sortir de l'épreuve. Mais nous devons attendre, pleins de confiance dans le Seigneur, sachant qu'il a pour but de produire en nous des fruits pour notre bénédiction spirituelle. Il faut aussi de la sagesse pour profiter des bénédictions acquises par l'épreuve, afin que les résultats demeurent à la gloire de Dieu. Il ne nous manque que d'avoir conscience de nos besoins et de les présenter avec foi. Nous ne risquons pas d'importuner Dieu. Nous pouvons aller à lui librement, connaissant les dispositions de son cœur à notre égard. Il donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches. Versets 6 à 8.
Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies.
La demande faite avec foi honore Dieu. L'épreuve produit donc la patience, la dépendance et la confiance. La dépendance sans la confiance ne suffit pas. La confiance se réalise dans la piété. L'homme qui avait été aveugle dit aux Juifs,
« Si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, il l'écoute. »
Jean 9, verset 31. Quand cette confiance n'existe pas, on ne peut s'attendre à recevoir. Ce principe est applicable à chacun, quoique ici, comme tout du long de l'Épître, on puisse distinguer entre ce qui est applicable aux croyants et ce qu'il est aux professants qui n'ont pas la vie. Le croyant, formé par l'épreuve, a appris la patience, la dépendance et la confiance, et c'est ce qui le caractérise. Celui qui n'a que la profession ne peut réaliser ces choses, il ne connaît pas Dieu. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées et inconstant dans ses voies. Cela ne peut être dit absolument d'un croyant, quoiqu'il reconnaisse avoir besoin de demander avec foi, sans douter, car il est souvent inconstant. Versets 9 à 11.
Or, que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe, car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies.
Les versets 9 à 11 sont une sorte de parenthèse, introduite peut-être à cause du contraste entre la dépendance de la foi et la confiance dans ce qui a de la valeur pour le monde et en quoi l'homme se glorifie. Le frère de basse condition a un sujet de gloire, c'est l'élévation à laquelle la grâce l'a amené, position dans laquelle Christ n'a pas honte de l'appeler frère. voir aussi Philémon, versets 15 et 16.
Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur.
Le frère riche, au lieu de se glorifier dans les biens de ce monde, au moyen desquels l'homme se passe de Dieu, se glorifie dans son abaissement quant au monde, afin de jouir avec le frère de basse condition de leur bénédiction commune. Dans cette position, l'esclave est l'affranchi du Seigneur, et le maître, l'esclave de Christ. La part que la grâce a faite à tous efface les différences matérielles et sociales, ce qui est tout différent de l'esprit socialiste qui voudrait niveler les classes à son propre profit, esprit dont nous avons à nous garder. Tout ce qui a de l'apparence, tout ce qui est de la chair passera. Le riche passera comme la fleur de l'herbe, il se flétrira dans ses voies. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament comparent à l'herbe desséchée la grandeur et la gloire qui appartiennent à la première création. Psaume 37, verset 2.
Bientôt, comme l'herbe, ils seront fauchés, et comme l'herbe verte, ils se faneront.
Psaume 90, versets 5 et 6.
Comme un torrent, tu les emportes, ils sont comme un sommeil. Au matin, comme l'herbe qui reverdit. Au matin, elle fleurit et reverdit. Le soir, on la coupe et elle sèche.
Psaume 102, verset 4.
Mon cœur est frappé et est desséché comme l'herbe.
Et 102, verset 11.
Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge, et je deviens sec comme l'herbe.
Ésaïe 37, verset 27.
Et leurs habitants ont été sans force. Ils ont été terrifiés et ont été couverts de honte. Ils ont été comme l'herbe des champs et l'herbe verte, comme l'herbe des toits et la récolte flétrie avant qu'elle soit en tige.
Etc. En Ésaïe 40, verset 6 à 8, la consolation du peuple de Dieu est ceci. Quant au vieil homme, tout est jugé, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ésaïe 40, versets 6 à 8.
Une voix dit « Crie !» et il dit « Que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, car le souffle de l'Éternel a soufflé dessus. Certes, le peuple est de l'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. »
Pierre ajoute en citant ce passage
« Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. »
C'est par elle que le croyant est régénéré. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Verset 12.
« Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car, quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. »
Ce verset fait suite au verset 4. L'épreuve manifeste la réalité de la foi. Celui qui l'endure est bienheureux, car, ayant été manifesté fidèle dans l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. L'épreuve fait réaliser la mort d'une manière pratique, et peut aller jusqu'à la mort du corps comme à Smyrne. Apocalypse 2, verset 10.
Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Il faut être fidèle jusque-là. La couronne est présentée à titre d'encouragement, comme récompense. Le caractère de la couronne est toujours en rapport avec la position et les difficultés de ceux à qui elle est promise. 2 Timothée 4, verset 8.
Désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.
1 Pierre 5, verset 4.
Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire.
Apocalypse 2, verset 10.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie.
Ici, c'est la vie en contraste avec la mort réalisée dans le temps présent. On peut remarquer la ressemblance du langage de cette épître, en s'adressant aux croyants, avec celui des psaumes et des chapitres 5 à 7 de Matthieu, où nous trouvons si souvent le mot « bienheureux » que nous avons ici. Ce terme est appliqué aux résidus ou aux disciples dans un temps difficile, alors que leur conduite est en opposition avec les principes du monde. Versets 13 à 15.
Que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort.
Nous avons ici l'autre genre de tentation. Celle-ci ne peut venir de Dieu, puisqu'elle vient du péché. Chacun est tenté étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. La chose qui tente n'est pas ce qui produit le mal. Elle demeurerait sans effet si la convoitise ne se trouvait pas dans le cœur. C'est pourquoi la parole ne dit pas que nous sommes amorcés par l'objet de la convoitise, mais chacun par sa propre convoitise. Quelqu'un pour qui l'or n'aurait pas de valeur pourrait voir tout l'or du monde sans aucun désir de se l'approprier. Le poisson avale le ver qui lui sert d'appât, non parce qu'on le lui présente, mais parce qu'il l'aime. S'il ne l'aimait pas, il le repousserait. Ainsi, c'est sur notre cœur que nous avons à veiller, jugeant le principe mauvais en nous et étant occupés du bien, afin que les objets de la convoitise demeurent sans effet sur nos cœurs. L'apôtre Pierre nous dit que, par la participation à la nature divine, nous échappons à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4.
Afin que par elle vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise.
La convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. La mort est la fin nécessaire du péché.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
En Romains 7, l'apôtre Paul montre que le péché produit la convoitise, parce qu'il parle de l'état de l'homme, tandis qu'ici la convoitise produit le péché, ou les péchés, parce que Jacques ne parle que de la conduite.
Ne nous induis pas en tentation,
de Marc 6, verset 13, se rapporte non à cette tentation intérieure qui ne peut venir de Dieu, mais à la tentation extérieure. Seulement, cette tentation extérieure peut être l'épreuve de la chair ou celle du nouvel homme. Dans le premier cas, l'homme en sort toujours humilié et battu, comme il en fut pour Pierre. Si nous nous connaissons, nous dirons
« Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. »
Car Dieu a d'autres moyens pour nous apprendre à nous connaître. Sa parole nous dit suffisamment ce que nous sommes, et il veut nous garder du mal en nous tenant dans sa présence et sa dépendance. Dans le second cas, le nouvel homme sort toujours triomphant de l'épreuve et peut la considérer, à cause de ses fruits, comme un sujet de parfaite joie. Versets 16 et 17.
Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout ce qui nous est donné de bon, et tout don parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement.
Ici, nous avons le contraste entre ce qui est en Dieu et ce qui vient de la chair. De Dieu, il ne peut sortir que ce qui est bon et parfait. De la chair, que convoitises diverses et péchés. au verset 14 et 15, Jacques avait montré ce que nous sommes. Au verset 17, il établit ce qu'est Dieu. Puis au verset 18, il ajoute « Voici ce que Dieu a fait de vous. Il vous a engendré selon sa propre nature, afin que vous puissiez accomplir le bien. » Il ne faut donc pas s'égarer en attribuant à Dieu le moindre mal. Ce qui est mal vient de l'homme, tandis que
« Tout ce qui est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. »
Dieu est la source de toute lumière. Il en est l'auteur. De la même manière, il est appelé le Père de gloire, en Éphésiens 1, verset 17.
Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
Il ne peut donc y avoir aucune ombre en lui, et, à cause de sa nature parfaite, Dieu agit toujours dans le même sens. Il n'y a aucune variation dans l'excellence de sa nature. Verset 18.
De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures.
Il nous a engendrés de sa propre volonté. L'homme n'entre pour rien dans ce fait merveilleux. En Jean 1, verset 13, il est dit
« Lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Cet engendrement a lieu par la parole de la vérité, comme la mauvaise nature l'a été par une parole de mensonge lors de la chute. Nous avons dans les Écritures trois expressions de la vérité. Christ est la vérité. L'Esprit est la vérité, la parole est la vérité. La parole est la révélation de ce qu'est Dieu, de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Cette révélation a lieu en Christ. Dieu emploie sa parole pour nous révéler la vérité. Cette parole vient à nous, nous révèle Dieu en Christ et, entrant dans le cœur, y apporte la vie, cette semence incorruptible, comme nous le voyons aussi en 1 Pierre 1, versets 23 à 25.
Vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu, parce que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée.
Ce n'est pas proprement la parole qui est la semence incorruptible, c'est la vie qui est apportée par elle. Dès lors, l'homme est une nouvelle créature, et Dieu peut attendre de lui le bien. Il y a eu une première création gâtée par le péché, elle passera. Il y en a une nouvelle, dont ceux qui sont engendrés de Dieu sont une sorte de prémisse. La grande pensée de cette épître, c'est que la volonté de l'homme est mauvaise et ne doit pas exister. Il y a possibilité à cela. Le secret nous en est fourni par le verset 18 qui nous enseigne la régénération dans laquelle n'entre rien de l'homme. Versets 19 à 20.
Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Puisque tout ce qui est bon vient d'en haut, il faut être prompt à écouter, et puisque tout le mal vient du cœur naturel, il faut être lent à parler, lent à la colère. Tout fruit de la volonté de l'homme doit être mis de côté pour accomplir ce qui provient de la nouvelle nature dépendante de Dieu. Lents à parler, afin de ne pas nous exposer à manifester ce qui provient du cœur naturel. Lents à la colère, aussi, car lorsque nous avons à témoigner la sainte indignation de la nature divine contre le mal, la chair peut s'y mêler. Il en est de même pour les paroles. alors tout est gâté, car
la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
La justice de Dieu est ici la chose pratique, l'absence de péché qui est en Dieu. Vous ne pouvez l'accomplir si vous manifestez les produits du cœur naturel. Verset 21.
C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes.
C'est pourquoi il faut rejeter tout ce qui peut provenir de cette source impure et que Jacques désigne par « toute saleté et débordement de malice », terme correspondant aux deux caractères du mal dans le monde, la corruption et la violence. Participant de la nature divine qui est lumière, nous avons à discerner ce qui est souillé afin de le rejeter. Le cœur renferme un mélange de toutes les choses mauvaises. Il nous faut veiller à ce qu'elles ne débordent pas. Ésaïe dit :
Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille, et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue.
Chapitre 57, verset 20. Étant vides de tout ce mal, nous devons recevoir avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver nos âmes. Cette parole qui a apporté la vie s'implante et s'enracine comme un arbre dans un terrain fertile, agit dans le cœur d'une manière active et pratique et délivre l'âme, la sauve de tout ce qui lui est contraire. Pierre dit :
Ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise.
2 Pierre 1, verset 4. Le salut est présenté de trois manières dans la parole : comme pardon des péchés, comme délivrance pratique dans la course et comme délivrance finale. Versets 22 à 24.
Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était.
Il ne faut pas seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique, car Dieu cherche des fruits. Celui qui pense qu'il suffit d'écouter et de connaître se séduit lui-même. Il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Il se détourne et oublie ce qu'il est. Aucun résultat n'est produit. C'est ce qui eut lieu pour l'homme devant la loi. Il en prenait connaissance, apprenait à voir ce qu'il était, mais ne possédant pas une nature qui lui permît de l'accomplir, il s'en détournait et oubliait aussitôt tout ce qui lui était enseigné. Verset 25.
Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son faire.
Le nouvel homme, au contraire, a besoin d'obéir. Comme Christ, sa nourriture est de faire la volonté de Dieu.
Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom,
dit Jérémie. Chapitre 15, verset 16, et aussi psaume 119, verset 103.
Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche.
Le croyant regarde de près dans la parole, cette loi parfaite qui est appelée la loi de la liberté, car elle exprime la volonté de Dieu en accord avec la nouvelle nature qu'il possède. Non seulement il y regarde de près, mais y persévère, et n'étant pas un auditeur oublieux, il sera bien heureux dans son faire. Il trouvera son bonheur dans l'exercice pratique du bien. Il faut, en se plaçant devant la parole, avoir la conscience que l'on est devant Dieu, et que c'est Dieu qui parle, et s'en approchant ainsi, on ne peut avoir que de la bénédiction. Quand on ne la considère que pour la discuter, la contrôler ou enrichir son intelligence, on n'éprouvera que de la stérilité. Verset 26.
Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain.
Quelqu'un peut penser être religieux et le paraître en faisant certaines œuvres, mais s'il ne tient pas sa langue en bride, son service religieux est vain, sans effet, sans résultat. C'est par la langue que l'on juge de ce qui est dans le cœur, qu'on manifeste ce qui le gouverne. On ne peut le cacher, la langue le trahit toujours. Afin de brider la langue, il faut brider le cœur. Sinon il est séduit.
N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est au-dedans de moi comme un enfant sevré.
Psaume 131, verset 2. Nous avons une puissance pour empêcher cette séduction et nous faire marcher hors du chemin de la volonté propre. Jude dit, verset 24,
Or à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez, et de vous placer irréprochable devant sa gloire, avec abondance de joie.
Verset 27.
Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde.
Le service religieux pur et sans tache a lieu dans la présence de Dieu le Père. Il est caractérisé par deux grands traits de la nature divine, l'amour et la sainteté. L'amour pratique, qui exclut toujours l'égoïsme, cherche ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance, privés de leur soutien naturel, les veuves et les orphelins. On trouve, parmi les professants, sans vie, la pratique de ces choses, la philanthropie. Il leur semble même que le christianisme pratique ne consiste pas en autre chose, mais la parole ajoute à cela
« et de se conserver pur du monde ».
Ce service religieux, réalisé devant Dieu le Père, s'accompagne d'une purification pratique dans la marche, car elle est caractérisée aussi bien par la sainteté que par l'amour. Le monde est tout un système établi autour de l'homme en chute. Il s'agit de se conserver pur de tout ce qui le caractérise, non seulement de ce que l'on appelle ses souillures, mais de comprendre que tout ce qui le caractérise souille. En principe, le monde a été formé à la chute par l'activité des trois convoitises. 1 Jean 2, 16.
Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde.
Ensuite, il a été organisé par Caïn chassé de devant l'Éternel après le meurtre d'Abel, puis définitivement caractérisé par la révolte ouverte contre Dieu lors du rejet de Christ. Le véritable christianisme se montre donc dans la pratique de l'amour et la séparation d'un tel système. Nous pouvons remarquer encore que cette religion pure et sans tache est individuelle et s'exerce sous la dépendance de celui qui a préparé à l'avance les bonnes œuvres afin que nous marchions en elles. Éphésiens 2, verset 10.
Car nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles.
Et que le principe d'association avec le monde, même pour faire le bien, est une des choses qui appartiennent à ce système dont nous avons à nous séparer. Le côté pratique de cette épître est très important à retenir aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, de précieuses vérités concernant notre position céleste, et l'Église nous sont connues. Mais sur le terrain pratique, nous sommes souvent humiliés en nous voyant distancés par plusieurs qui possèdent moins de lumière sur la parole. N'avons-nous pas besoin d'être réveillés à cet égard ?